Tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous du lundi avec sa bande-annonce pour un avant-goût de ce qui va se passer toute cette semaine. Alors, bande-annonce 100% énervée.
Séverin, merci d'accepter l'interview.
Avec plaisir.
J'appuie sur record et puis c'est à vous.
Alors, on n'attend pas Patrick.
Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont?
Je te dis que le privé tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse.
Ouais. Ça a l'air bien.
Mais non.
Comme j'ai été privé un peu de cette enfance-là où je l'ai vécu plutôt caché.
Tu as le temps.
C'est une façon de me réapproprier mon regard, mon enfance et mon identité.
Tu les connaîtras tous les mots. Tous les mots du dictionnaire.
Ce que nous avons vu sur les Champs-Élysées, ça n'est pas une manifestation, c'est une scène d'émeute.
J'ai vraiment pris une claque, quoi.
Pourtant, qu'est-ce que j'ai de plus que vous? Du talent? Oui, alors, je vous le donne.
Thanks.
Thanksgiving, c'est la fête américaine.
Ah oui, Thanksgiving.
Je voulais un titre qu'on ne comprend pas, tu vois, pour que les gens aient un doute, cherchent un petit peu, et j'ai trouvé 50-50.
Pour moi, c'est typiquement américain. Enfin, je veux dire, la façade et derrière la façade.
Et toi, par contre, une seule façon d'être, hein?
Oui, ben moi, je suis sinistre de bout en bout, et ça mérite d'être clair.
Petite mine. Eh ben dis donc, c'est pas la joie ici.
3, 4. Et là, on glisse comme une en Amazon.
Mais je vais te tuer.
Les Hutus tuent les Tutsis. Et apparemment, ont décidé de les tuer tous.
C'est peut-être ça la différence avec ceux qui n'ont pas de jumeaux.
Oui, pour moi, mourir, c'est être séparé de toi.
Beaucoup de choses cette semaine. Franck Dubosc, le retour, ce sera demain avec un énervé la suite consacré au Rwanda, 25 ans après le génocide des Tutsis. On parlera cinéma jeudi avec Michel Leclerc et Baya Kassmi. Comédie musicale avec Kamel Wally, ce sera mercredi. Et puis deux découvertes, le plasticien Eddie Dubien jeudi, la clown Karel Pruniaud mercredi prochain. Mais tout de suite, Séverin part en live, Nicolas Saada vire paranoïaque, le énervé générique.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien, bonsoir, c'est le NRV, nous sommes lundi 25 mars. Bienvenue à toutes et à tous et doublement bienvenue puisque vous pouvez nous écouter, vous le savez maintenant, dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, ou alors attendre 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, voyage avec Séverin, troisième album solo transatlantique. Séverin en live ce soir, Marion Guilbeault.
Qu'est-ce qu'on lui dit à la morosité ambiante, Laurent? Eh bien, nous, on lui répond Séverin au NRV.
Pour une fois, parce que l'album précédent était un peu plus neurasthénique. À ses côtés, Nicolas Saada signe une série d'espionnage, Thanksgiving, sur Arte, un genre encore peu représenté dans la fiction française. Ça fait de vous une exception culturelle. Nicolas Saada, bonsoir.
Bonsoir.
On parlera encore série avec Benoît Lagan, qui est à Lille depuis ce week-end pour Sérimania. Il poste chaque jour un podcast original à écouter sur franceinter.fr. On va prendre des nouvelles de ce qui se passe là-bas. Et dans le NRV La Suite ce soir, une nouvelle histoire de la violence, Christophe Boursier.
Oui, mais moi, je trouve que moi, je n'ai pas de titre. C'est sans titre. Ce soir, c'est une soirée sans titre, car Laurent, la violence me viole, sachez-le. Et donc, pour parler de la violence, bien sûr, vous et moi, ça va de soi. Il y aura également Raphaël Caillé. Alors, Raphaël Caillé dirige la CGT Police Île-de-France, soyons précis. Il y aura également Ludivine Bantigny, qui est historienne. André Comte-Sponville, philosophe. On lui doit un livre qui s'appelle Contre la peur et sans autres propos, dans lequel il évoque d'ailleurs cette violence-là, bien sûr. Denis Maillard, lui, les conseils en relations sociales. Il est l'auteur de Une colère française, ce qui a rendu possible les gilets jaunes. Parce qu'évidemment, on va en parler aussi.
Comme d'habitude, encore, après chaque week-end.
Oui.
Allez, le nervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Ah, et ça fait du bien d'ouvrir la semaine avec du live, Marion Guilbeault.
Oui, en plus avec Séverin. Il est né Séverin Thesnas du Moncel. Et ses lettres de noblesse, eh ben, il les accorde à ses chansons. Des chansons, faussement naïves, mais souvent réjouissantes ou franchement consolatrices, comme des colliers de fleurs autour du cou. Ça, c'est sans doute son penchant tropical. Séverin joue les faux détachés, les doux rêveurs, trop bien élevés pour avouer son dépit ou crier son désespoir. Transatlantique, son nouvel album est un aller simple pour la nonchalance, l'amour, l'évasion et un peu d'auto-promotion. Alors, prendre l'avion avec Séverin, c'est sans doute pas terrible pour notre bilan carbone, mais c'est excellent pour le moral. Séverin, c'est à vous.
Elle est là.
Elle est là pour écouter ma nouvelle chanson que je branche sur les enceintes du salon. Elle quitte pas des yeux la chaîne Ifi, elle a 3 minutes pour se faire un avis. Pendant ce temps-là, je fais les 100 pas. Mais si le morceau est pas terrible, elle cherche à dire un truc sympa pour pas me vexer comme je suis sensible. Mais quand elle aime, elle triche pas. Et elle remet la chanson 10 fois. Alors, joue la fausse modestie, tout en me disant que je suis un putain de génie. Elle est là les semaines avant les concerts importants, quand je redeviens un enfant. Ça joue dans ma gorge, mais surtout dans ma tête, et elle fait des tisanes et ferme les fenêtres. Il faut choisir les fringues du grand soir. Soudainement, je me transforme en minette. Ça parle de cheveux, ça parle de rasoir. Ça parle que de moi qui fais des pauses devant le miroir. Moi, ce que je veux, c'est avoir l'air cool. Elle, ce qu'elle veut, c'est que j'ai pas l'air gros. Mais ça la saoule de faire les boutiques avec un mec qui doute comme un ado. Toujours là, m'écouter à l'ombre des microphones.
Elle est là.
Et toujours là, croire en moi même quand y a plus personne.
Elle est là.
Et toujours là, me conseiller à l'ombre des microphones.
Elle est là.
Et toujours là, je sais pas pourquoi même quand y a plus personne.
Elle est là.
Elle est là le soir du concert, loin du bar, pour pas vouloir taper les bavards. Un coin tranquille avec sa bière, pour que je la voie pas dans la lumière. Alors, elle m'écoute déballer notre vie, devant la famille, devant des inconnus, devant des amis. Y'en a même qui lui tapent dans le dos, quand je raconte un petit peu trop. Puis, on se retrouve 2 heures plus tard, dans les bravos, dans les bonsoirs. On est heureux jusqu'au lendemain matin, quand je tiens à savoir si c'était bien l'enfer, quoi.
Elle est là.
Et toujours là, m'écouter à l'ombre des microphones.
Elle est là.
Et toujours là, croire en moi, même quand y'a plus personne. Et toujours là, un conseiller à l'ombre des microphones.
Elle est là.
Et toujours là, je sais pas pourquoi, même quand y'a plus personne. À toutes les soirées.
Elle est là.
Quand le disque marche pas, on achète nos places pour pouvoir rentrer.
Elle est là.
Quand je me dis que je suis qu'un loser et que j'aurais dû faire des études.
Elle est là.
Quand je me dis que je suis le meilleur et que ce morceau sera un tube.
Elle est là.
Elle est là pour moi et je suis là pour elle.
Elle est là.
Et toujours là, m'écouter à l'ombre des microphones.
Elle est là.
Et toujours là, croire en moi même quand y'a plus personne. Toujours là, conseiller à l'ombre des microphones.
Elle est là.
Et toujours là, je sais pas pourquoi, même quand y'a plus personne.
Séverin en live dans le nouveau rendez-vous. Elle est là, ce titre de son dernier album Transatlantique. Séverin qui sera en concert à la Maroquinerie à Paris. Ce sera le 29 mars en première partie de M, le 7 avril à Nantes, le 16 à Dijon et le 28 mai à Strasbourg.
La session est filmée, donc on pourra vous voir sur la page Facebook de l'émission. Et puis on peut vous voir aussi, parce que le clip de la chanson vient de sortir avec Anaïs de Moustier, j'ai vu.
Tout à fait.
Vous ne vous refusez rien, ça y est.
Ah, voilà, on s'autorise tout. Hein.
Ouais. Léa Salamé pour l'interview, ça c'était dans le précédent clip. Anaïs de Moustier pour celui-là. Catherine Deneuve, ou c'est pour le.
Tout à fait, oui, ouais. C'est prévu. Ouais.
C'est prévu, je peux voilà. Imaginer. L'album, on peut l'entendre beaucoup plus gai, souriant que le précédent, ça va beaucoup mieux ou quoi?
Non, pas tellement.
Pas tellement, parce que le précédent était vraiment sublime, mais beaucoup plus, on va dire, neurasthénique, mélancolique. Ça s'appelait Ça ira, tu verras.
Tu verras. Ouais. Non, mais comme quoi, on peut être neurasthénique et sublime. C'est beau.
Vous vous connaissez tous les deux, Nicolas Saad?
Non, pas du tout. Là, pas du tout.
On n'a pas eu cette chance encore.
Vous avez fait de la musique, vous avez tout fait.
Non,
Nicolas Saada, je vous le présente. Il a été journaliste à Radio Nova pendant des années, puisqu'il avait une émission sur les musiques de films. Il a été journaliste aux Inrock. Il a été.
Non, pas aux Inrock.
Non, pas aux Inrock.
Au
Cahier du cinéma. Ouais, c'est
j'ai
ça.
Travaillé surtout avec Pierre Chevalier.
Qui a disparu il y a bien la semaine dernière.
Et qui m'a à peu près tout appris. Jean-François Dion et Pierre Chevalier sont les deux personnes qui m'ont le plus appris.
Après, il y a eu le cinéma. Aujourd'hui, la série, on va en parler. Vous avez fait de la musique?
C'est mon plus grand regret.
Jamais. Même jamais. Pas un groupe obscur j'adore dans un
musique,
garage.
J'ai, j'en écoute, mais je suis incapable de jouer un instrument. Alors, j'ai un peu l'oreille, mais très peu, quoi.
On va parler série avec lui, vous regardez, puisque dans la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, il y a, qui s'appelle En vacances, il est question dans les paroles de mater des séries. Vous en regardez, ah bah, vous,
oui, bien sûr.
Quel type?
Plutôt, j'aime bien tout ce qui est assassinat et ces choses-là, oui. Tout ce qui est un peu sordide, justement.
Espionnage?
Ouais. Ouais.
Non, il faut du sang.
Moi, j'ai plutôt, ouais, j'aime bien les...
Les polars nordiques?
Voilà. Mais tout ce qui touche aussi la véracité, un peu toutes les vraies histoires qu'on va raconter.
Ah ouais, style...
Voilà, mais je sais pas, même le O.J. Simpson, c'était magnifique, ça, comme série.
Nicolas Saada, une série d'espionnage?
Une série d'espionnage?
Ouais.
Ah ben moi, c'est La Taupe avec Alec Guinness, d'après John Le Carré. C'est une série pas très connue de la BBC, que j'ai vu ado et qui m'avait complètement fasciné parce qu'on y voyait vraiment les services secrets sous l'angle le moins glamour possible. C'était des petits fonctionnaires atroces, poussiéreux, qui se tiraient dans les pattes. Et il y avait comme ça une description d'un monde qui était absolument le contraire de ce qu'on voyait dans les James Bond et surtout une tension permanente alors qu'il se passait au fond, pas grand-chose.
On va parler de la série tout à l'heure, mais juste une question, parce que en ce moment se déroule le festival Sérimania à Lille. On va rejoindre Bruno Lagan dans quelques instants, qui va nous parler de ce qui se passe là-bas. Vous aviez présenté cette série-là, qui passe actuellement sur Arte, l'année dernière, donc à Sérimania. C'était plutôt bien passé. Vous avez été depuis, d'ailleurs, sacré meilleur réalisateur pour cette série au festival de Luchon, c'est ça?
Oui, c'est ça.
De Luchon. Pourquoi ça a mis tant de temps avant d'arriver à la télévision, en fait?
Bah, écoutez, c'est des logiques de programmation qui, parfois, nous échappent, mais qui sont, en fait, je pense, très raisonnées, raisonnables. Et quand une chaîne décide de programmer quelque chose, une série ou
elle
autre...
Elle prend son temps, quand même, manifestement.
Elle décide qu'il y a un moment qui est opportun. Et là, je pense qu'en l'occurrence, ça l'était, puisque je crois que la série a plutôt bien fonctionné.
Oui, sur Arte, on va en parler tout à l'heure. Juste un mot, puisqu'on parle de visuel, sur la pochette. Très belle, une photo vraiment plasticienne. On vous voit à Orly,
oui.
Sur le tarmac.
Et c'est une photo faite par un excellent photographe qui est en plus c'est mon frère.
Ah bah alors tu parles, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est une photo de famille alors.
Ouais, mais c'est la première fois que j'arrive à faire une photo avec mon frère. Généralement, ça finit toujours à la poubelle.
Oui, parce que votre frère, il est quand même c'est un photographe connu.
C'est un super photographe. Je savais même pas que c'était votre frère d'ailleurs.
Ouais, non, mais il expose beaucoup, etc. Ça, oui, il a fait plusieurs livres. Mais à chaque fois qu'il a souvent, il fait souvent des paysages urbains. Ouais. Donc il met pas souvent des
mais
personnages.
Mais il y a pas, voilà, il y a très peu de personnages dans ses photographies généralement.
Et là, il a réussi à mettre comme une plante un peu.
Comme une plante verte,
il y a une plante verte, mais sur le tarmac à Orly. Ça a été facile à pouvoir négocier, ça?
Alors, on a eu beaucoup de chance. On avait 10 minutes pour faire la photo, donc il a fallu être, on pouvait être que 4, donc on est allé très très vite. Mais non, je pense que ça les amusait, en fait. Ils n'ont pas souvent des demandes comme ça, en fait.
Non mais moi il y avait ça et puis dans le clip aussi dans le clip avec Anaïs de Moustier
mais c'est suite au fait on a réussi à faire la pochette
en 10 minutes.
Non, on a réussi à faire la pochette et on est revenu quelques mois après avec la pochette en leur disant voilà on a réussi à faire ça, est-ce qu'on peut faire un clip? Quitte, on avait mis un pied dans la porte.
Donc vous avez les clés d'Orly, c'est sûr.
Juste une question, puisqu'on vous a demandé un son à tous les deux, plusieurs sons d'ailleurs qui vous ont marqué et c'est bizarre parce que vous avez choisi un son en commun, on écoute. C'est vrai.
C'est vrai que cette question de son, ça m'a amusé. Et puis tout d'un coup, c'est vrai que c'est ça qui est venu. Moi, j'étais à New York au moment des attentats. Et c'est mon souvenir le plus terrifiant, donc c'est pas très gai. Mais c'est d'être dans la rue, dans la 5e avenue, et de voir la tour s'effondrer. Et c'est pas tant l'image de la tour qui s'effondre, mais c'est le bruit des cris de la ville. Et où vous avez des millions de personnes qui, en même temps, crient. Et c'est un son que je n'oublierai jamais, qui m'a... Je pense que c'est aussi pour ça que je fais de la musique joyeuse.
Et vous, Nicolas Saada, vous aviez aussi choisi le 11 septembre.
Oui, c'est étrange qu'on ait choisi le même son. Bah, moi, c'est un moment, je pense, absolument clé dans ma vie. Déjà, ma compagne était enceinte. Et je me disais, voilà, ma fille va arriver dans ce monde-là et qui n'est plus le même monde. C'est-à-dire que je me suis dit, là, tout va changer. Notre manière d'imaginer, notre manière de penser, notre manière de créer, notre manière de regarder, d'entendre, tout va changer. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une journée, j'ai vraiment compris ce que pouvait être ce qu'on appelle un moment historique. Et j'ai un souvenir absolument terrifié de cette journée du 11 septembre 2001. J'étais devant ma télévision. On a presque même l'impression que c'est l'origine presque des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voulait en savoir encore plus tout le temps. On avait juste accès aux chaînes de télé en continu
avec
à l'époque.
Avec l'image en boucle.
En boucle. Mais voilà, c'était le monde qui vient est arrivé avec le 11 septembre. Et bon, pour moi, c'est absolument mémorable. Et ce son aussi, mais pas pour les mêmes raisons que c'est vrai. J'étais pas là.
Un son de cinéma pour vous, Nicolas Saada.
La scène du meurtre de Jeanette Leigh aussi est bien.
Seven days.
Ça durait 7 jours.
7 jours. Moi, je crois que c'était
70 pas... setups. Position de caméra. 70. I used a nude girl.
Je me suis servi d'une fille à poil.
A lot.
Beaucoup.
And I shot some of it in slow motion.
Et j'en ai filmé une certaine partie en slow motion, au ralenti.
Ah ouais.
Because of covering the breast.
Pour couvrir la poitrine.
Nicolas Saada, qu'est-ce qu'on entend ?
On entend Hitchcock, Truffaut, Helen Scott. C'est la bande audio qui a servi au livre Hitchcock, Truffaut. Et moi, c'est un document que j'ai découvert grâce à Malène Morgenstern et Serge Soubiana dans les années 90. À l'époque, où je disais qu'il y avait peut-être la matière à faire une émission radio qu'on a faite et produite pour France Culture à l'époque. Mais c'est vrai que moi, le livre, je le connaissais vraiment bien. C'est quand même le livre qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'est Truffaut et Hitchcock qui m'ont vraiment donné cette envie de faire du cinéma. Et quand j'ai écouté pour la première fois leur voix, ça a été un grand choc, surtout que je suis resté avec eux, vraiment avec eux pendant presque 2 mois et demi à Radio France, à écouter les bandes pour faire un montage. Il y avait 27 heures de bande, il fallait faire 13 heures d'émission. Donc moi, comme je connaissais assez bien le livre, même un peu par cœur, je me suis dit, il faut qu'on monte les choses de manière à ce qu'on passe un peu moins de temps sur tel film, un peu plus sur celui-là. Mais j'étais avec eux tout le temps, à les écouter, à les entendre. C'était très impressionnant, très émouvant. Et c'est un grand moment, la découverte de ces bandes. Surtout qu'à l'époque, je faisais beaucoup de radio. Donc la radio, pour moi, c'est un médium absolument unique et génial qui a nourri mon envie de cinéma. C'est-à-dire que la radio, ça crée, je pense, chez l'auditeur, de l'image, de la fiction, le son, la mise en son. Donc je savais qu'avec ce document, on allait aussi faire de la très grande radio.
Un autre son, beaucoup plus personnel pour vous, c'est vrai. Des pas sur le gravier.
Ah oui.
Ah oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est quoi?
Non, mais j'avais fait une chanson en fait là-dessus. Les pas du gravier, c'est le son de mes parents en fait.
Dans la propriété.
C'est vrai que vous m'avez vraiment présenté.
J'ai dit la vérité moi. Oui, mais...
À Moulinsart.
J'espère que ça ne me définit pas heureusement. Alors, sinon j'aurais choisi un métier beaucoup plus simple, peut-être.
Quoi, palefrenier?
Non.
Majordome.
Fiscaliste, peut-être.
Ah oui, bien oui, ça, je vous reconnais bien là. Donc, c'est pas sur le gravier.
Non, mais c'est le souvenir d'enfance, c'est le bruit de mes parents, ce bruit de l'enfance, et puis le bruit aussi qui a disparu avec le temps. Donc moi, ça m'évoque mon père, en l'occurrence, et qui est parti. Mais donc, c'est ce souvenir-là du temps qui passe, de plein de choses, plein de choses que je retrouve parce que cette maison existe encore, donc voilà,
elle appartient toujours à la famille, c'est vrai.
Mon Dieu, mais ah, écoutez, vraiment ça suffit.
Ça suffit. Écoutez, alors on va retrouver tout de suite derrière le micro, c'est pour la partie live.
On les fait bosser, hein.
Ah bah oui.
Rendez-vous.
Deuxième titre en live pour Séverin ce soir dans le Énervé. Il est toujours accompagné par Élise Blanchard à la basse, Mathias Fisch aux percussions et Jérémy Arcache au clavier. Tous les deux sont aussi présents sur le disque. Vous êtes prêts Séverin ? C'est à vous.
Qu'on se tire en vacances, mater des séries toute la nuit, sous réserve qu'il y ait du wifi. À nous les correspondances, vol de nuit sans turbulence. Je veux te voir tout dépenser dans ces souvenirs à fabriquer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. compter les vagues se casser, sous réserve qu'il y ait des vagues. La vie c'est pas qu'une école, t'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence, convalescence, port de plaisance. Une vraie semaine pour s'arrêter, maintenant qu'on fait plus qu'avancer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Regardez les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé. Se défiler, y a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café. C'est pas des plans sur la comète, juste un instant sur la planète, pour oublier qu'il faudra rentrer si le vol est pas annulé. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer. Compter les vagues, se casser, sous réserve qu'il y ait des vagues. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit arrivé.
C'est vrai, le temps de changer de guitare.
C'est ça, il y a un changement de
guitare. Ah bah oui, c'est important, il lâche l'acoustique pour saisir sa jolie Gibson rouge flambante.
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus sensuel.
Ah bah pour ce qui arrive, il faut au minimum une guitare comme ça.
Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûté que ma maman me dit ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oh, stop, un instant, j'aimerais ce moment fixe pour des tas d'années, ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment, non. Et maman m'avait dit ralentis. Désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Pour un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Je t'aimerais encore et encore. tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes, en douceur, lentement, dirigé, sensualité. Un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité.
Live dans le Énervé à la technique, prise de son, Philippe Duclos, Alexandre Chenet, Nicolas Cazot, à la vidéo, c'est Dominique Philippot. Les lives sont à retrouver sur le site internet. Séverin, venez nous rejoindre, on n'en a pas fini avec vous.
On n'en a pas fini avec vous.
Certainement pas.
Un mot sur cette reprise d'Axel Red.
On vous attendait plutôt sur du Souchon, du Chédid.
Ouais, mais c'est pas mal, c'est pas de côté, ouais. Pour
oui, pourquoi pas.
Ouais, c'est bien.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson?
C'est je sais pas, c'est un petit moment de bien-être.
Vous avez dansé dessus déjà?
Quand j'étais, vous voulez dire quand, à l'époque,
quand vous étiez enfant,
très enfant, tout petit.
Mais c'est une chanson qui date de 94.
Bah oui, elle est pas si vieille que ça en fait, même.
Oui, enfin ça dépend.
Dis oh le type là. Qui essaie de se rajeunir un maximum.
Oui, oui, bien sûr. Alors qu'on est né en 2000, peut-être que c'est son nom.
Donc un nouvel album qui parle pas mal d'ailleurs de la condition d'artiste. Ça commence dès la première chanson qui ne devait pas figurer sur l'album. J'ai pu lire dans les entretiens. Elle s'appelle l'interview extrait.
Si ta chanson passe pas au supermarché, ça veut dire qu'elles ont pas supermarché.
C'est vrai, mais tu sais, c'est pas faute d'essayer. Mais faut croire que je suis pas efficace. De toute façon, j'ai toujours préféré.
Alors, il y a une question qui revient dans cette chanson, celle, la question que posent les journalistes. Ils demandent toujours quelles sont tes influences. Réponse, vous chantez, écoute mon album. Alors, je l'ai fait, et voici l'influence que moi j'ai pu retrouver, parce que j'ai bossé.
Le soir, seul dans Paris. Mes amis sont partis, je traîne et je m'emmerde. La pluie, Paris, la pluie.
Oh, et puis, est-ce que j'ai bien bossé?
Et ben alors, figurez-vous.
Pierre Vassilure, dans les années 70, un album que j'adore, c'était les faces B de ses titres, beaucoup plus connus comme Qu'est-ce qu'elle a. Non, c'était pas Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, c'est qui celui-là? C'était des chansons drôles.
Qu'est-ce qui fait celui-là?
Voilà, qu'est-ce qui fait celui-là?
C'est à Pierre Vassilure.
Voilà, et il y a cette dimension-là, oui.
Mais complètement, mais alors, figurez-vous que je connaissais pas ce morceau.
C'est vrai.
Je connaissais pas ce morceau.
C'est très proche, hein.
Et ils avaient. En fait, si j'avais connu le morceau, j'aurais pas fait quelque chose d'aussi proche. Mais je connaissais pas ce morceau, et après l'avoir enregistré, j'ai fait écouter à mon frère, un de mes frères qui m'a fait écouter ce morceau. Et voilà, c'est un hasard pour ma part. Vraiment, je l'avais jamais entendu, et ça m'a permis en même temps de le découvrir. Et j'adore ce morceau maintenant, et d'autres.
Et le reste, vous avez écouté le reste de Pierre Vassilure?
Mais je connaissais très peu en fait.
Ah, moi aussi. Enfin, j'ai reçu un album il y a pas si longtemps que ça, parce que
chez Bandbad,
c'est Bandbad qui a réédité les faces B de ces titres-là. Et il y a presque une tradition de cette chanson narrative avec la voix posée. On dirait que vous êtes une sorte d'enfant de Pierre Vassilure.
Mais c'est...
Vous voyez comme quoi il vaut mieux qu'on vous demande quelles sont vos influences plutôt que le journaliste qui va bosser.
Non, c'est bien, mais en même temps, ça me permet de découvrir après comme ça. Mais c'est vrai que j'ai découvert presque un père spirituel alors que je ne connaissais pas du tout. C'est comme si j'avais été adopté ailleurs, vous voyez. Peut-être.
Je disais tout à l'heure, vous faites un petit peu d'autopromotion sur ce disque. Il y a quand même l'interview qui parle de votre travail d'artiste. Il y a aussi Elle est là. Il y a les 30 minutes qui finissent le...
30 minutes après ma mort, mais il faut d'abord mourir.
Oui, il faut d'abord mourir
pour qu'ensuite les réseaux sociaux viennent célébrer votre disparition.
C'est ma femme qui prendra l'argent, par contre.
On espère pour elle, vos enfants peut-être.
Bien, ouais.
Mais du coup, qu'est-ce qu'il y avait de si important à raconter de votre pratique de musicien, d'artiste?
Je veux pas tricher, c'est mon principe de départ. Et c'est vrai que comme c'est ma vie, je parle de mon travail parce que c'est clairement la partie la plus importante de ma, enfin une des parties les plus importantes de ma vie. Et après, je pense que c'est un biais pour finalement parler d'autre chose, parce que là, quand je parle de ma femme qui est là pour moi dans mon travail d'artiste, je pense que c'est valable de tout le monde et c'est valable dans les deux sens. Donc c'est plus un accompagnant.
Qu'est-ce qu'elle fait, elle, de son côté?
Elle est styliste, donc c'est pareil, c'est, ah bah ouais, dans le bah sens, oui, c'est l'enfer,
c'est
aussi.
C'est les deux, oui. Oui.
Ouais, donc moi, je viens à cauchemar dès qu'il y a des défilés.
Des collections.
Des collections, ouais. Et des défilés.
Et donc, c'est complet. Enfin, voilà, pour moi, c'est. Mais je pense que. J'espère que ça parle de moi, mais que ça peut parler à d'autres gens.
Nicolas, vous vouliez intervenir?
Oh, pas du tout, non. C'est très étrange qu'on ne s'est pas consulté. J'ai pensé, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, à Pierre Vassilou, mais aussi une tradition, Henri Salvador aussi, peut-être. Et les influences de Bossa Nova, mais aussi de Roy Ayers, de Simon. Enfin, c'est une vraie belle surprise, ce disque.
Bah, je vous aime déjà.
Non, mais c'est vraiment cet ADN, en fait, que vous avez depuis quelques années maintenant.
Oui, bah, c'est de part parce que ma femme est brésilienne, donc c'est sûr que ça m'a ouvert aussi sur une musique que je connaissais pas du tout. Et après, voilà, il y a ce mélange de, c'est vrai que j'écoute essentiellement de la musique, enfin, j'écoute beaucoup de musique métissée, beaucoup de musique d'Afrique. Et c'est de pire en pire.
Troisième album solo, c'est la première fois que vous ne signez pas la réalisation, j'ai pu lire. Ça y est, vous lâchez du lest?
Non, mais
confiance aux autres.
Non, c'est mais vrai. Oui, je commence à faire confiance. C'est peut-être la maturité.
Oui, alors l'album de la maturité, on va pas vous le faire. Sinon, ce sera la prochaine chanson.
Non, on se retrouve dans
possible.
L'interview 2 cette fois-ci.
Oui, on peut peut-être vous mettre dedans, peut-être.
Oh, j'adorerais l'album de la maturité.
Mais plus sérieusement, votre façon de travailler, elle a vraiment évolué, parce que j'ai l'impression quand même que vous travaillez régulièrement avec les mêmes musiciens, par exemple. Et
Oui, bah ça c'est parce qu'ils sont bons, hein, premièrement.
D'accord.
Et pas cher.
Voilà, c'est ça.
Ça c'est normalement, c'est la deuxième raison.
Ça, je ne rentrerai pas dans ces considérations.
Ils sont là encore.
Ils sont là encore. Là.
Non, mais c'est aussi que moi, c'est un autre principe pour moi dans la vie, c'est de m'entourer de gens sympas et d'essayer d'éliminer les gens qui sont pas sympas.
Mais ne pas signer cette fois-ci la réalisation, ça vous permettait quoi en fait, de partir sur des choses que vous ne maîtrisiez pas vraiment ou?
Non, c'est de. J'ai quand même. Je fais de la réalisation pour d'autres artistes.
Oui, bien sûr.
Donc ça me permet. Je crois que j'ai compris maintenant que c'est des métiers très différents. Et que si on veut vraiment être à fond dans l'interprétation, on peut pas être en train de s'occuper du son de guitare, de choses qui sont pas des détails, mais qui. Pour l'interprétation, c'est deux choses différentes. Donc ouais, vraiment, je me suis mis en mode chanteur. J'ai presque joué aucun instrument sur ce disque.
Justement, à propos du mode chanteur, votre chant, il est très parlé chanté sur ce disque. Et à vos débuts, en solo, avec l'album Cheesecake, vous chantiez pas. Il y avait 14 oui. titres, 14 chanteuses, 14 voix différentes pour les interpréter. Qu'est-ce qui justifiait de passer par d'autres voix que la vôtre à l'époque?
Bah, j'étais célibataire déjà.
Ouais.
Donc faire chanter 14 filles, c'était une
des potentialités
pour rencontrer des femmes. Ça je peux pas le nier. Après j'ai rencontré l'amour, donc ça perdait son sens. Et puis aussi j'assumais pas de chanter en français à l'époque.
Ah, pour quelle raison?
Parce que j'écoutais que de la musique anglo-saxonne surtout, et ça me semblait bizarre de me dévoiler en français. Il y avait un truc un peu de se mettre à poil.
Et quand on chante en français ou en anglais, est-ce qu'il y a des tonalités différentes dans votre pratique à vous?
Ah oui, moi j'ai ma voix est descendue en chantant en français. Je chante plus grave. Et plus comme ma voix parlée en fait. Et c'est plus dur, je trouve, de faire des envolées comme ça en français. Il y en a qui le font, mais j'en sais rien, des Polnareff ou autre, mais moi j'ai pas, c'est pas ça qui me vient naturellement.
On vous présente souvent comme un chanteur sentimental, mais moi je trouve que vous vivez pas du tout pour autant dans une bulle. On le disait sur le précédent disque, il y avait Ça ira, tu verras, il y avait aussi cette chanson qui s'appelait France, et puis là sur cet album il y a un titre qui s'appelle L'abstentionniste, qui fait écho un peu à l'aquaboniste de Gainsbourg. Qu'est-ce qui fait réagir le Séverin aujourd'hui?
Mais d'une façon générale, souvent on présente mon nouvel album comme quelque chose d'un peu hédoniste, un peu comme si je faisais du yoga toute la journée et tout. Mais pour moi, c'est pas tellement ça le propos de mon album quand même. C'est plutôt un refuge aussi, mais en étant assez conscient quand même du monde qui m'entoure. Et je crois que même quand je dis en vacances, etc., je parle pas juste de partir en vacances. Je parle de, ou quand je fais l'abstentionniste, cherche l'abstentionniste qui est en moi, mais dans le fond, je parle de l'urgence. De se préoccuper du monde dans lequel on est.
Et à propos du monde dans lequel on est, quelle est votre réaction à la déclaration des 171 artistes qui ont signé ce dimanche, dans le journal du dimanche, justement, une déclaration sur les GAFA qui pillent les artistes par rapport aux droits d'auteur? Vous vous situez comment?
Je n'ai pas du tout assez d'informations pour répondre à cette question.
Bon, j'adore ce genre de réponse.
Qu'est-ce que ça veut dire, vos chansons? Elles sont sur YouTube, sur Spotify, sur tout le monde.
Vous n'êtes pas attaché à votre droit d'auteur?
Si, mais bien sûr, mais je...
Pensez à votre femme pour les 30 minutes après ma mort.
À vos enfants.
Bien sûr.
Non, pas de prise de position sur ce sujet.
Si, non, mais évidemment, mais c'est... Ouais.
Vous pensez que vous avez, c'est l'abstentionniste là aussi qui est.
Non, mais pas du tout. Non, bien sûr. Mais je connais pas assez le sujet pour pouvoir.
Elle va pas vous lâcher, vous savez.
Ouais. Mais évidemment que la défense des droits d'auteur, c'est une priorité, bien sûr.
Alors, je voulais juste qu'on écoute justement un extrait de cette chanson, 30 minutes après ma mort.
J'ai connu mon heure de gloire, environ 2 années de mon vivant, où j'ai été la bête de foire, celui avec qui on veut passer du temps. J'ai connu le succès, la jalousie, et puis l'oubli. Et j'ai vu partir sans un bruit ce qui m'aimait dans la lumière pour entrer dans les années sombres. 30 minutes. Car quand mon heure est arrivée, la vraie, celle qui vous laisse inanimée, il n'y avait personne pour m'applaudir, il n'y avait personne depuis des années. 30 minutes. Il y a 30 minutes, je m'éteignais. Je trouvais l'apaisement radical dans un dernier souffle discret. C'était il y a 30 minutes.
C'est une des plus belles chansons de l'album, véritablement, moi, je trouve, même au niveau de la voix, de la façon de la poser. Il y a eu un élément déclencheur par rapport à cette chanson, précisément.
Oui, tout à fait. Je vous souviens très bien, je l'ai écrit, c'était Hubert Mounier.
Oui,
c'était le jour de son...
L'affaire Trio, oui.
Ouais, de son décès. Où j'ai vu, je me souvenais de lui, je connaissais assez peu sa musique, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux une sorte de petite explosion de R.I.P. Rest in Peace à toi et tout, notre ami, on t'aimait tant et tout. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à lui et à découvrir qu'il a passé quand même les 10 dernières années de sa vie totalement dans l'ombre, tout seul, avec personne qui s'intéressait à lui. Et voilà, c'est là qu'est née la chanson, c'est que je trouvais ça terrifiant, cette violence en fait de sa solitude et la violence de ce moment où tout le monde était là à s'extasier sur cet homme qui semblait complètement abandonné en fait.
Moi, je me montais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai, vous restez avec nous, on va parler série dans quelques instants. Quelques dates de concert, j'imagine,
Marion. 29 mars à la Maroquinerie à Paris et en première partie de M, le 7 avril à Nantes, le 16 à Dijon, le 28 mai à Strasbourg.
Après 4 années de silence, Falls revient non pas avec un, mais avec 2 albums. Ils ont bossé, hein. Exit, premier extrait dans le énervé.
Make no-
Le son de Falls, il sera en concert au Bataclan à Paris le 13 mai prochain. La programmation est signée, bien sûr, Jean-Baptiste Audibert.
Une blessure par balle va arriver.
Quand ?
Tout de suite.
Il présente le syndrome du savant. Il voit les choses et il les analyse.
Le nouveau rendez-vous.
Identité super secrète, personne ne saurait qui ils sont.
Sur France Inter.
Ce savant, celui qui analyse, c'est Benoît Lagane que l'on va retrouver. Il est à Lille depuis samedi pour le festival Cérimania. Il ne nous manque pas du tout, comme ça fait plus de place dans le bureau.
Ça fait plaisir.
Salut Benoît, ça va ?
Salut Laurent.
Bon, j'imagine que vous en avez bouffé de la série en sélection officielle depuis samedi dernier. Il y a un coup de cœur, quelque chose qui se dégage pour vous ?
Alors ben, c'est vrai que ça a commencé que vendredi, donc on y va jusqu'à samedi, donc il y a encore beaucoup de séries à voir. Mais pour l'instant, il y a vraiment une série qui m'a marqué, c'est une série qui s'appelle Chimérica. Alors pour comprendre Chimérica, il faut prendre les deux mots Chine et America, vous les contractez, ça fait Chimérica. C'est une série fabriquée par les Anglais, la Channel 4 précisément, et c'est une série en fait qui prend pour contexte l'Amérique de Trump de 2016, la campagne électorale qui va amener Trump au pouvoir, et on a un journaliste américain qui travaille pour un journal anti-Trump et qui se retrouve pris dans un piège un petit peu d'une fake news, enfin une photo qu'il aurait trafiquée. Bien évidemment, ça fait pas du tout plaisir à son patron. Il se retrouve mis au banc du journal. Et pendant ce temps-là, il retravaille, il repense à une photo qu'il a prise il y a bien longtemps, en 1989, au moment, vous savez, du char de Tiananmen. Oui. Quand, avec le fameux homme de Tiananmen qui est devant le tank et qui empêche le tank d'avancer. Il a pris, ce journaliste, la photo depuis l'hôtel et il se demande, mais qu'est devenu cet homme ? Et part de la série commence par là, par cette enquête qu'il va mener pour essayer de découvrir ce qu'est devenu cet homme. Et la série est vraiment très intéressante parce qu'à la fois, elle est dans le contexte américain d'aujourd'hui, mais elle parle surtout du journalisme et notamment, et c'est ça que je trouve le plus passionnant dans la série, le problème du journalisme à l'ancienne, confronté au journalisme rapide, à l'urgence. Et les séries sur les journalistes, finalement, il y en a assez peu. On en voit assez peu. Et là, je trouve que c'est brillant. Alors, c'est une mini-série, c'est un petit peu comme la série de votre invité Thanksgiving, qui est une mini-série en trois
de Nicolas Saada.
Nicolas Saada, là il n'y en a que quatre, donc ils en ont fait un de plus.
Il y a quelqu'un qui joue Trump.
C'est la méthode anglaise.
Qui joue Trump ?
Personne joue Trump. Il n'est qu'en images d'archives. En fait, c'est un mélange d'images réelles et de fiction. Non, ils n'ont pas recomposé. En revanche, le photographe est bien évidemment une fiction. Tous les journalistes et tous les personnages sont inventés, mais à partir de bases réelles.
Pour les Français, j'imagine quand même qu'il y a eu quelque chose qui vous a intéressé. Vous avez vu la dernière vague qui sera diffusée sur France 2.
Tous à l'eau !
Vas-y Max !
Montre-leur
qui est champion !
Allez Thomas !
La dernière vague, c'est quoi ? C'est le grand bain ?
Non, c'est plutôt les revenants à Mimizan, si vous voulez. C'est des surfeurs. Là, on entendait, c'est le début de la série. Il y a une grande, des surfeurs qui sont là sur la plage pour une compétition. Et puis, au-dessus de l'océan, il y a un étrange nuage, un petit peu étrange. Alors, il y en a un qui regarde ça en disant, mais c'est quoi ce truc ? Il appelle la météo. Non, tout va bien, vous inquiétez pas. On n'a pas à s'inquiéter. Donc, tout le monde part pour la compétition. Et puis là, le nuage, tout doucement, descend et sur l'océan. Et là, tout le monde disparaît, inquiétude pendant quelques heures, 5 heures, et puis au bout de 5 heures, ils reviennent. Voilà. Et toute la série tient sur, comme dans Les Revenants, comment on va gérer le retour de ces surfeurs. Qu'ont-ils vécu pendant ces 5 heures d'absence ? C'est à la fois une allégorie environnementale, parce que ces personnages reviennent avec des pouvoirs. On n'est pas dans les séries de super-héros. Hein. Donc c'est vraiment un enfant, par exemple, qui a disparu et qui revient. Et bon, il avait une vision un peu déficiente. Il revient, il voit très bien, il a les yeux très bleus.
Comme moi. Et c'est moi.
Voilà, comme vous Laurent. Et c'est assez étrange. Alors on a vu que deux épisodes. On a vu que deux épisodes. Le début commence un peu dans le surjeu. Et puis ce qui est le plus passionnant, je trouve, dans la série, c'est que tant qu'on est dans quelque chose qui pourrait être réel, les comédiens sont dans le surjeu. Et dès qu'on bascule dans le fantastique, là le jeu se veut plus naturaliste et plus touchant. Et
c'est pas mal comme idée de mise en scène.
C'est plutôt pas mal.
C'est signé par qui?
C'est signé par Rodolphe Tissot, qui avait fait Ainsi soit-il, la série d'Arte.
Ah, mais dis donc.
Et puis c'est écrit par.
Après les prêtres.
Par deux, voilà. par deux, c'est écrit par deux scénaristes plutôt chouettes qui ont travaillé notamment sur la série K1 pour France 2. Donc ils savent faire une série étrange mais très populaire.
Bon, merci. On va vous retrouver ici même jeudi, Benoît. Je rappelle que vous signez tous les jours un podcast original à retrouver sur franceinter.fr. Série Mania sur écoute. Alors à jeudi, Benoît.
Merci beaucoup.
Thanks.
Thanksgiving, c'est la fête américaine.
Ah oui, Thanksgiving.
Je la fête tous les ans avec des amis.
Oh, votre épouse est américaine, c'est ça?
Oui. Ça pose un problème?
France Inter.
Ça, c'est à vous de me le dire.
Mais en même temps, je vous mentirais en vous disant que c'est pas un problème.
Laurent Goumard.
Bah si, c'est un problème. Thanksgiving. Ah oui. Thanksgiving, mini-série, 3 épisodes pour Arte. Je vous représente Nicolas Saada. Vous êtes le réalisateur primé pour cette série au Festival de Luchon. Alors, je vous représenterai rapidement la radio, Radio Nova, les programmes sur Arte dans les années 90, le cinéma, il y a exactement 10 ans avec Espion. Déjà, une histoire d'espionnage. 10 ans plus tard, c'est un anniversaire. Vous passez du côté de la série. Espionnage encore. Quel est le lien particulier que vous avez, vous, à titre personnel, avec cet univers?
Ça vient, je pense, de mes premières passions de cinéphile.
Donc ça vient par le cinéma, ouais.
Oh oui, aussi bien James Bond qu'évidemment Hitchcock. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est lié au fait que j'ai l'impression que c'est un peu comme ce que fait Cédric la musique, c'est qu'il y a des registres et il y a des tempéraments et il y a des styles et qui s'accordent plus ou moins avec les genres. Donc moi, je crois que le style que j'avais envie d'explorer de cinéma était un peu entre le film de genre et le film d'auteur. J'avais pas envie d'avoir à choisir entre le cinéma de genre pur et le cinéma d'auteur radical. J'avais envie de mélanger les deux au sein d'un même travail de cinéaste. Donc, il y a eu Espion, il y a eu Taj Mahal, il y a eu des courts-métrages, et puis il y a aujourd'hui Thanksgiving. Et ce que j'aime avec l'espionnage, c'est l'idée qu'on peut fabriquer beaucoup de fiction et même beaucoup de spectacles avec très peu de choses. C'est-à-dire qu'on, avec deux regards, trois ambiguïtés, deux portes qui claquent, on peut créer un monde. Et c'est ça qui m'intéressait.
Et une bénédiction c'était pour les producteurs.
D'abord, c'est une bénédiction pour les producteurs. Ça, je vous l'accorde. Mais quand on est metteur en scène et qu'on a des ambitions, autant se fixer aussi des ambitions atteignables pour voir aller au maximum de ces ambitions, même y aller plus encore en profondeur. Et ce qui m'intéressait, c'est que ça a à voir avec le langage cinématographique et avec l'intime, l'espionnage. Et l'idée qu'on ne sait pas vraiment avec qui on partage notre existence me fascine.
Vous êtes marié ?
Oui, je suis marié.
Mais ça fait flipper hein, quand on voit le film. Quand on voit la série. Ah bah, ça fait encore plus flipper. Oui, c'est l'autre quoi
non,
ça
non,
parle,
ne flippez
cette
pas,
série.
Ne flippez pas.
C'est
vrai ?
Bien, oui.
Alors, est-ce que je fais le pitch ou vous faites ?
Allez-y, Laurent. Bon, ça m'intéresse de vous écouter.
Oh, tu parles. Vincent, il est joué par Grégoire Collin, crée un logiciel antivirus surpuissant.
Oui.
Le nom ?
Le Splendor. Un rêve. Imaginez un logiciel qui renvoie à l'expéditeur le virus qu'il a essayé de vous envoyer. On en rêve tous.
Mais il se fait espionner et pirater d'ailleurs de façon industrielle. Alors, par qui ? Tout le monde est suspect, y compris sa propre femme. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez vous-même marié. L'idée au départ, elle vient d'où ?
Elle vient alors de deux choses.
Parce que c'est donc à la fois une série d'espionnage et une série, on va dire, scène de la vie conjugale.
Bah, ça vient justement de la scène de la vie conjugale.
De Bergman,
qui est une série c'est une série européenne, comme La Taupe d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure.
Oui, parce que c'était une série télévisée, scène de la vie conjugale.
Oui, c'était 6 heures. Hmm. Il paraît que les rues de Stockholm étaient désertes le soir des diffusions de scène de la vie conjugale de Bergman. Elles sont toujours désertes.
À partir de 15h, il fait nuit, excusez-moi de vous le dire.
Et cette série, moi, j'avais vu aussi ado, elle m'avait terrifié. Alors, je comprenais pas pourquoi elle me terrifiait. Bah, déjà parce que peut-être Bergman est un génie et qu'avec l'intime, il arrive à faire un film d'horreur à partir d'une histoire d'amour et d'une histoire d'un mariage qui va à volo, quoi. Mais je me suis dit, essayons de raconter une histoire comme ça intimiste sur un couple qui se désagrège en mettant de la fiction à l'intérieur, en mettant un récit d'espionnage. Et essayons de marier les deux en se disant que l'un ne peut pas se résoudre sans l'autre. Et donc, pour ce faire, j'ai travaillé avec deux personnes qui ont beaucoup compté. C'est le producteur Claude Chény, qui était presque un peu à l'origine du projet, qui est venu me trouver en disant « Viens, on va faire quelque chose autour de l'espionnage, comme pour ton premier film Espion. » Et Anne-Louise Trividic, la co-scénariste, et Arte, Olivier Wöttling, Isabelle Huitsch, qui ont accompagné tout ce travail. Et c'était à la fois très excitant à faire. J'ai jamais autant passé de temps à travailler l'écriture d'un projet. Et surtout, c'était comparativement très étrange d'avoir autant de temps d'écriture et aussi peu de temps de tournage. Et c'est un budget très resserré.
Combien de temps de tournage ?
29 jours pour 3 épisodes.
Waouh.
Oui, ça demande.
C'est rapide.
C'est rapide, avec en plus des budgets qui sont pas ceux, par exemple, de France Télévisions dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un épisode de Thanksgiving, c'est beaucoup moins de budget qu'un épisode, je sais pas, de 10%, par exemple. Donc, mais moi, j'aimais bien tous ces défis. J'avais envie de les relever. J'avais envie de faire une série qui me ressemble, qui soit stylisée, mais qui puisse aussi parler un peu à tous les publics.
Voilà. Alors, tout à l'heure, Benoît Lagan parlait de Chine et d'Amérique. Là, il y a un rapport de couple, mais il y a un autre rapport, c'est entre la France et les États-Unis. Et c'est en cela qu'elle vous ressemble aussi.
Oui, parce que moi, j'adore le cinéma américain. J'ai grandi un peu dans ces deux langues, l'anglais et le français.
Qui
sont présentes dans la série. Ça fait partie de mon univers. J'ai toujours l'impression que le français, c'était la langue de l'intime et que l'anglais, c'était la langue de la fiction. Évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Mais j'aimais bien l'idée de mélanger ces deux langues dans la série, comme mélanger justement des musiques, des mélodies dans la série. Et surtout, ce qui me plaisait, c'était de parler des rapports entre la France et l'Amérique qui sont quand même très compliqués et maladifs. C'est-à-dire que il y a une détestation de l'Amérique par la France. En même temps, dès que l'Amérique reconnaît quelque chose de français, ça devient la référence. C'est-à-dire qu'on dit du mal des États-Unis, je crois, toute l'année en France, mais dès qu'un cinéaste ou un musicien a la reconnaissance aux États-Unis, ça devient effectivement prestigieux. Et cette contradiction, ce rapport complètement haine-amour entre l'Amérique et la France, je trouvais intéressant de le jouer à l'intérieur même d'un couple.
Mais vous avez vraiment l'impression qu'il y a une relation d'haine et amour en France? On se tape toujours un acteur américain pour les Césars, par exemple, alors qu'on n'est jamais invité véritablement pour les Oscars.
Ça, c'est l'histoire des Césars, ça me regarde
non,
pas.
Non, j'ai l'impression
qu'il y a quand même
quelque chose s'est crispé avec l'arrivée de Trump, mais pas
beaucoup
sinon,
plus. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours eu ce rapport amour-haine avec les États-Unis, et ça date pas d'hier, hein, ça date de l'immédiat après-guerre, en fait. Hein. C'est à voir aussi avec l'histoire de France.
C'est vrai?
Si, je suis d'accord avec ça, ouais.
Vous aussi.
Relation amour-haine avec les États-Unis, ouais, je la partage. Même à l'intérieur de mon cerveau, je la partage aussi.
C'est à l'intérieur de votre cerveau. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à l'intérieur de ce film, il y a, alors comme toujours chez vous, un travail de plan-séquence, quelque chose de très stylisé, mais aussi des citations, il y a Criminel d'Orson Welles.
Oui.
Ça, c'est pas mal quand même, hein.
Oui, alors Le Criminel, c'est un film
atroce,
peu connu, ouais, de Welles, qui raconte l'histoire d'un couple, justement, et l'histoire d'une femme qui réalise que son mari, qui vit dans une petite ville des États-Unis, bien au chaud avec elle, est en fait un ancien criminel nazi recherché depuis très longtemps. Et elle découvre le secret de son mari. Il y a une séquence à la fin du film où effectivement tous les masques tombent. Et ça m'amusait de citer ce film à l'intérieur même de l'épisode 2. C'est-à-dire que le couple, qui ne sait pas encore que l'un et l'autre fabriquent des choses en coulisses, regarde ensemble le film. J'aimais bien cette idée. Et en plus, ça me permettait de faire avancer l'histoire sur une citation d'un des cinéastes que je préfère en plus.
Alors, vous êtes aussi invité comme membre du jury au 11e Festival international du film policier de Beaune. Il y a des choses qui vous excitent dans le programme?
Ah oui, tout. Je suis ravi parce que, alors, on parlait de l'Amérique. Il paraît qu'il n'y a pas de film américain. Il n'y a que des films européens, asiatiques, d'Amérique latine. Donc, ça me plaît beaucoup de découvrir plein de cinématographies et plein de films policiers de tous les pays, et puis c'est un genre que j'affectionne depuis le début.
Pourquoi il y a pas de film américain? Ça veut dire quoi?
J'imagine qu'ils n'ont peut-être pas trouvé des films qui leur plaisaient. En tout cas, dans la compétition, il y a des films taïwanais, chinois, argentins, donc voilà, ça m'excite beaucoup.
Vous allez encore beaucoup au cinéma?
Ça m'arrive.
C'est vrai, ouais?
Oui. Ouais, ça m'arrive.
En salle ou chez vous,
Pénard? En salle, non, mais...
Avec les gens qui téléphonent et qui parlent à côté de vous? Moi, je me demande comment vous faites. Hein. Moi, j'ai arrêté. Moi.
Jamais signé une musique de film, jamais écrit une chanson pour un film?
Non, j'ai fait des musiques de dessins animés.
Oui, mais, en effet, ouais.
Ouais, ouais.
Il y a trois dessins animés que vous avez signés.
Si vous avez un enfant de 2 à 4 ans, je pense qu'il connaît mon plus grand succès à ce jour, succès mondial.
Qui est?
C'est Simon, c'est un petit lapin. Et la chanson s'appelle Ça c'est Simon, hein. Et c'est quand je vais voir par exemple ma belle famille au Brésil et que je leur parle de mes disques, des larmes dans les yeux, ils trouvent ça sympa. Quand je leur parle de Simon, là je suis
un héros. Il y a une reconnaissance immédiate.
Merci à vous deux, merci Nicolas Sada. Thanksgiving, le dernier épisode, ce sera vendredi sur Arte.
Sans replay en fait.
Sans replay
jusqu'au 30 sur Arte.fr.
Sur Arte.fr. Et puis bon festival du film policier
merci
à Beaune.
Beaucoup.
Ça commence le 3 avril prochain, vous avez compris. Le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver dans 15 minutes, mais vous aurez disparu tous les deux, Séverin et Nicolas Sada. Ça sera après le journal et on se retrouve avec ça.
Je condamne la violence, certes, mais je la comprends aussi. Quand vous voyez la violence symbolique qui existe dans notre pays, on ne peut pas rester les bras croisés.
Une nouvelle histoire de la violence est au programme. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.